Radio 1, premier sur l'info, avec AXA Assurance et Matelas Royalty.
Vous écoutez Radio 1, il est midi, tout de suite, les titres de votre journal local, présentés par Wallis Glaise. Bonjour Wallis.
Bonjour Beignet, bonjour à tous. Quatre syndicats vont au Conseil d'État contre l'obligation vaccinale. Un mois déjà que la demande en oxygène explose. Et puis enfin, la petite Awapeu, logée à Mangareva, est à pour écrire son troisième roman.
Les quatre syndicats vont en Conseil d'État contre l'obligation vaccinale.
Mais oui, les quatre centrales syndicales principales du pays ont déposé devant le Conseil d'État un recours contre la loi du pays sur l'obligation vaccinale. Les libertés individuelles sont un trésor qui mérite d'être défendu de toutes nos forces, écrivent les quatre syndicales, les quatre centrales syndicales. Ils prennent soin de préciser qu'ils ne sont pas occupés à la vaccination. Écoutez Vadim Toumanian, secrétaire général du CAPP.
Les points qui me semblent les plus importants, c'est premièrement la violation du droit à la vie privée, la violation de tout un ensemble de droits constitutionnellement garantis. La sanction financière en elle-même est déjà 10 fois celle qui serait équivalente en métropole, ce qui est aussi un motif d'illégalité. Le fond du débat aussi, l'un des points que l'on soulève, c'est que la Polynésie française n'a peut-être pas forcément pris en considération la perspective de cette crise à venir et des autres crises qui viendront forcément. On est contre la vaccination obligatoire et en particulier dans la façon dont la Polynésie française a mis en place le dispositif en envisageant aucune autre alternative.
Les syndicats estiment que le pays n'a pas suffisamment bien formé et assuré la population sur le vaccin. L'objet, la population, n'est pas la solution.
Nous pensons que l'approche qui a été réalisée n'est ni faite ni à faire. Dire aux gens c'est comme ça et pas autrement, alors que les gens qui vous le disent eux-mêmes ne se l'appliquent pas à eux, qu'à côté de ça, des postes équivalents en métropole ne sont pas concernés par une quelconque obligation vaccinale, le discours est absolument inaudible.
Oui, la plus haute juridiction administrative a 3 mois pour y donner suite, alors que la loi entre en vigueur au 23 octobre prochain.
Un mois déjà que la demande en oxygène explose.
Oui, vous le savez, l'oxygène, c'est le principal médicament pour les cas graves de la Covid lors des prises en charge à domicile. Et bien sûr, à l'hôpital, les patients en consomment beaucoup. Et à Tahiti, si le CHPF propose une seule plusieurs bouteilles d'oxygène, il s'agit de Gaspac qui fournit en bouteille aux cliniques, les hôpitaux périphériques, les prestataires d'hospitalisation à domicile, une société au premier rang de la vague épidémique. Donc, depuis exactement un mois, on écoute sa directrice générale Myriam Balm.
Le week-end du 15 août, la demande a explosé et depuis cette date, nous avons fermé l'usine aucun jour et donc on travaille 7 jours sur 7 en 2-8 et certains jours même en 3-8 de façon à répondre à la demande des structures hospitalières. Donc les équipes ont été extrêmement sollicitées et ont travaillé à des cadences infernales pour pouvoir effectivement répondre à ce besoin multiplié par en moyenne 13 jusqu'à 51 pour Moréa, 22 pour Outouroi ou x9 par exemple pour le CHPF.
Le CHPF justement est doté de ses propres moyens de production d'oxygène, mais le Taonais a lui aussi fait appel à Gaspac pour les petites bouteilles permettant aux patients de se déplacer pour équiper des salles communes comme celle de la nef de l'hôpital qui vient enfin d'être désinstallée.
Des bouteilles ont été acheminées depuis l'Europe mais aussi depuis la Nouvelle-Calédonie. On a également doublé notre volume de stockage sur site et donc aujourd'hui nous avons près de 50 000 litres d'oxygène liquide qui sont stockés sur le site. C'est l'équivalent aujourd'hui de 16 piscines olympiques d'oxygène gazeux qui sont sur le site. On a notamment aussi anticipé avec un travail collaboratif avec la direction de la santé pour se doter d'une flotte d'isoconteneurs que l'on a prépositionné sur nos sites d'approvisionnement d'oxygène liquide en Nouvelle-Calédonie et en Nouvelle-Zélande de façon à pouvoir promptement répondre aux besoins lorsque la crise exploserait.
Un des propos recueillis par Charlie René.
Et puis au CHPF, pas d'euthanasie et aucun patient resté sur le parvis.
158 patients Covid mardi au Taonais, les chiffres ont largement baissé. Certains services ont pu rouvrir, mais la tension hospitalière est toujours là, comme en témoigne le service de réanimation du centre hospitalier. L'AREA continue d'être effectivement le thermomètre de l'épidémie et a été aussi au centre des débats ces dernières semaines, il faut le savoir. Écoutez le docteur Philippe Dupierre, président de la commission médicale d'établissement.
On a vécu une ascension du nombre de cas qui était vraiment très 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 élevé. Donc on a dû faire face à cette situation. Aujourd'hui, l'afflux aux urgences est bien moindre et on arrive donc à avoir un hôpital qui retourne tout doucement à la normale, compartiment par compartiment. Et donc, cela dit, on a encore de nombreux patients Covid qui sont hospitalisés et il faut qu'on puisse faire très attention à ces patients parce que ce sont souvent des maladies qui sont assez longues, donc il faut les réhabiliter. Et puis bien sûr, il y a le problème de la réanimation où finalement le nombre de lits est toujours aussi plein puisque ces patients ont des durées de séjour très très longues.
Le rôle des soignants pourtant ne s'arrête pas au constat d'une mort certaine car sans accompagnement, la mort fait mal, rappelle le docteur.
L'idée, c'est que quand les patients arrivent de façon gravissime à l'hôpital et que leur décès est attendu, eh bien, s'ils se mettent à respirer de façon trop rapide, ils vont souffrir en réalité. Et donc, on leur amène des médicaments pour leur éviter de souffrir, ce qu'on appelle un accompagnement des patients. Et c'est à la fois thérapeutique et à la fois psychologique. Et souvent, parfois, on essaye aussi de garder un peu de temps aux patients pour que les familles puissent venir. Et ça permet effectivement de gagner un petit peu de temps. Donc, ça a parfois provoqué l'incompréhension de certains patients puisqu'on a amené des moyens. En fait, c'était pour permettre aux patients de survivre un tout petit peu pour que les patients puissent communiquer avec leur famille le temps qu'elles arrivent. Et puis nous, de notre côté, on accompagne les patients avec des substances antidouleurs pour éviter qu'ils souffrent au moment du décès. Ça fait partie de notre code de déontologie. On doit accompagner un patient qui souffre, y compris au moment de sa mort.
Des propos recueillis par Charlie René.
Et petit Awapéouf serait en résidence à Mangareva et Taha.
Oui, pendant 2 mois en tout, Titowa bénéficiera d'un environnement propice à l'écriture grâce à la première résidence d'écriture proposée aux Polynésiens. Elle n'aura pas à se préoccuper de justement que de ça. C'est l'association des éditeurs de Tahiti et des îles qui est à l'initiative de ce dispositif avec la collaboration de l'État et du pays. Écoutez-la.
C'est un roman d'anticipation où j'avais envie de remettre au goût du jour nos îles éloignées, celles qu'on ne connaît pas trop, et revenir un peu sur les conditions de la colonisation mais aussi la christianisation de notre pays. Donc je faisais démarrer un peu mon roman à Mangareva. En cette période vraiment incertaine, je voudrais rappeler à notre peuple qu'il est vraiment indispensable d'être soudé, voilà, retrouver la sérénité en Polynésie.
De Mangareva à Taha et Rayatea, elle passera 2 mois en tout en immersion. Son projet a été choisi parmi 4 projets présentés en comité de sélection depuis le 6 juillet. En parallèle, elle s'est engagée à échanger avec les élèves de ces îles pour leur offrir une approche personnalisée de l'écriture. Elle sait, c'est quelque chose dont elle a l'habitude.
Ça fait quand même quelques années que je fais des interventions en collège et lycée. Lorsqu'on parle d'eux, ça les motive beaucoup plus à lire et à écrire. Il y en a qui sont très intéressés par déjà notre histoire et notre littérature.
Oui, justement, et c'est un dispositif encadré avec un suivi des institutions dans le même esprit. Une résidence d'écriture à destination d'un auteur océanien devrait être organisée, mais seulement lorsque la conjoncture le permettra. Voilà pour ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi.